Bon, alors les extraits que j'ai choisis de vous lire, je les ai choisis parce que ils abordent un thème qui, alors, je vais pas dire un thème qui m'est cher, mais qui commence à revenir de plus en plus souvent dans mes textes. C'est le chamanisme et plus particulièrement la rencontre entre le chamanisme et puis la science moderne, la technoscience. Voilà. Alors, le premier extrait qui est tiré du mausolée de Cher. Alors, le mausolée de Cher, c'est un journaliste qui s'appelle Nicolas Giuliani et qui, en août 1940, se trouve à Mexico. Alors, il est new-yorkais, il est anarchiste et il souhaite interviewer Léon Trotsky. Bon, et août 1940, c'est le mois où Trotsky est assassiné. Bon, il est là à ce moment-là, donc pour lui, la possibilité d'interview tombe à l'eau. Or, il se trouve qu'il, devant la maison où était calfeutré Trotsky, qu'on appelait le bunker, parce qu'il avait déjà été, l'objet d'un attentat quelques mois avant, il rencontre un biologiste qui apparemment était aussi le médecin de Trotsky et qui, malgré le décès de Trotsky, lui explique qu'il va pouvoir le faire, la rencontre va être possible quand même. Et il lui donne rendez-vous à l'extérieur de Mexico, dans un lieu qui s'appelle les canaux de Xochimilco. Puisque Mexico a été construite par les Aztèques sur une vaste zone marécageuse. Et voilà, donc l'extrait commence ici où Giuliani et Polyakov, qui est le savant, se rencontrent dans les canaux. Un chapeau à large bord, noir, ombrait le visage de Polyakov. La cape assortie, dont il serrait les pans réunis sur sa poitrine, lui donnait une allure de chiroptère géant. Giuliani pensa retrouver un peu de sang-froid dans la fumée du tabac. Levant la flamme de la lampe vers son cigario, il s'avisa brusquement que Polyakov n'était pas venu seul. Une paire de barques se serrait à présent contre le quai de pierre. Des deux Indiens qui composaient l'équipage de la seconde embarcation, le plus grand, dont le costume coloré mettait en valeur les jambes et les bras aux muscles finement découplés, mit pied à terre. De longs cheveux, noirs comme l'ébène, ruisselaient dans son cou. Une coiffe de plumes et de pierreries parait sa tête. Son poing serrait une manière de sagaie. L'autre Indien, à l'instar du borgne, demeura au fond de la barque, accroché à sa longue perche. Lui était armé d'un fusil passé en bandoulière. L'aspect de ces deux hommes aurait convaincu n'importe quel ennemi de renoncer à toute violence. Polyakov, ne craignant pas la GPU, seule la présence de Trotsky, quelque part dans cette jungle, pouvait expliquer ce luxe de précaution. « Je suis désolé de vous avoir fait attendre », s'excusa le vieil homme. Appuyé sur sa canne, il toisait Giuliani. « Où se cache Trotsky ?» demanda abruptement le reporter. Polyakov sourit. Mais aussitôt, son visage s'assombrit et ses rides s'accentuèrent violemment. Il ferma les yeux, serra les dents. Le journaliste expulsa une longue bouffée de cigario. « Le cigare est mauvais pour la santé, » dit enfin le médecin, lorsque ses traits eurent retrouvé un semblant de sérénité. « On lui prête au contraire de nombreuses vertus. » « Je sais de quoi je parle, » insista Polyakov, laissant percer une trace d'irritation. Il s'adressa alors à son escorte dans une langue inconnue de Giuliani. « Mais nous ne sommes pas là pour parler santé, » reprit-il en anglais, affrontant à nouveau le regard du journaliste. Encore que... Il avança d'un pas en direction des barques avant de se figer. « Il n'y a jamais bien loin de la maladie à la mort. » Or, vous êtes ici au seuil d'un temple dédié au trépas. Peut-on rêver meilleur point de départ pour un voyage vers l'autre rive? Rassurez-vous, Hygiée, la déesse de la guérison, nous escortera. Il fit un pas supplémentaire. L'introduction est un peu théâtrale, mais toute initiation réclame sa dose de mise en scène. Ses lèvres se tordirent soudain, évoquant une douloureuse floraison. Il lâcha les bords de sa cape, fouilla avec fièvre dans les poches de son gilet et exhiba bientôt une cigarette sommairement roulée. « Votre tabac vaut-il mieux que le mien ?» ironisa Giuliani. La réponse vint avec peine. Le cannabis calme les nausées et les vomissements. Poliakov porta le petit rouleau à ses lèvres. Aussitôt, le reporter s'empressa de lui proposer l'extrémité incandescente de son cigario. Une main blanche et décharnée se referma sur son poignet. Giuliani sentit le tremblement des doigts, le froid émanant du membre émacié. Les joues du vieux médecin se creusèrent pour inhaler la fumée au parfum d'épices. « Je prends de la morphine pour calmer la douleur, » expliqua-t-il, après avoir recraché un long geyser de vapeur. Posant alors les doigts sur sa joue droite, il ajouta « Je souffre de liaisons buccales cancéreuses. J'ai essayé la confiture ainsi que les pilules, mais je ne parviens pas totalement à me passer de la nicotine et des goudrons. De toute façon, il est trop tard désormais. » Certitude qui ne semblait allumer aucune révolte en lui. Mais il est temps à présent de nous mettre en route. Trotsky n'est pas ici ? S'étonna Giuliani. Non, pas en ce moment. Mais soyez sans crainte, je ne vous ai pas menti, vous lui parlerez. Poliakov brinque-balla jusqu'aux marches, à demi immergé dans l'eau du canal. Sachez que j'ai autant besoin de vous que vous de moi. Je ne comprends pas. Embarquez, je vous expliquerai en chemin. De la charpie de brume dérivait à la surface des eaux. Les pilotes impulsaient un rythme lent, marqué par le glas aquatique des perches donnant contre la coque des barques. Le marais paraissait moins effrayant, moins dangereux. Cela tenait-il à la présence de Poliakov aux côtés de Giuliani ? La voix du vieillard résonna soudain au cœur de la nuit. Dans le temple végétal, ses paroles prirent des accents de psaume. « Je vous ai déjà parlé de mon séjour amazonien. J'ai vécu quelque temps parmi les Indiens à Chaninkas. J'ai assisté à leurs séances chamaniques et pris la mixture préparée à base de vigne de l'âme, l'ayahuasca, la liane Banisteriopsis caapi. Lors de mes premières expériences, j'ai dû affronter de terrifiantes images, comme si j'étais projeté en enfer, mon enfer. Car il est en chacun de nous, tout comme le paradis. Puis, en apprivoisant mes visions, en me purgeant de cette géhenne qui m'habitait, j'ai déchiré le voile. C'est alors que j'ai rencontré ce qu'ils appellent les serpents, et qui est en réalité l'acide désoxyribonucléique de Levene et Mori. Ce qu'ignorent encore nos chers savants, c'est que l'ADN est le temple de la vie, un temple que j'ai visité, une tour perpétuellement vibrionnante, fourmillante, comme une ville sans sommeil, verticale et infinie. J'ai gravi la double spirale, contemplé jusqu'à l'ivresse le spectacle des balais moléculaires. À l'une des extrémités de l'édifice biologique se trouve une molécule, une sorte d'antenne tournée vers un autre monde. Comme les Indiens le font couramment avec les plantes, les animaux et toutes les entités qui les entourent, j'ai conversé avec cette molécule. Oui, les molécules parlent. Et ce qu'elles ont à nous dire est passionnant. Alors j'ai demandé à cette molécule bavarde quel était son rôle. Et le plus naturellement du monde, elle m'a expliqué qu'elle assurait le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Par elle transite l'information entre les mondes, les expériences du réel, la mémoire des sens et des sentiments. Et comme je doutais soudain, me demandant si tout cela était bien réel, si je ne sombrais pas en pleine psychose, elle me répondit que tout est réel, la réalité étant la somme des expériences de la conscience, quelle que soit leur nature. Lorsque Poliakov se tut, un silence abyssal succéda aux mots. Craignant de basculer dans cet abîme, Giuliani souffla sur les braises de la conversation pour ranimer la parole. Le matérialisme serait donc une duperie, une illusion ? Non, juste une réduction de l'univers. Mais quel rapport avec Trotsky ? Trancha le reporter, dont l'entendement se révoltait. Par la suite, au cours de mes nombreuses causeries avec les plantes, j'ai découvert des drogues capables d'inhiber et d'amplifier la capacité de transmission, la petite antenne biologique située à l'extrémité du filament d'ADN. Par hasard, je me suis aperçu qu'on pouvait communiquer avec les esprits défunts par ce canal, pour peu qu'on possède assez d'ADN du mort invoqué. Vous ne m'avez tout de même pas ici attiré ici pour me convier à une séance de spiritisme à la sauce biomoléculaire. En adoptant l'ironie, le reporter espérait refouler le malaise qu'il sentait poindre en lui. Bien sûr que non. Alors dans quel but ? Pour chasser le Oga, répondit Poliakov d'un ton presque facétieux. Voilà, je vais même m'arrêter pour cet extrait. Donc le suivant a une ambiance assez semblable puisque l'histoire se déroule aussi dans un, enfin l'extrait se déroule aussi dans un marais, mais cette fois sur une autre planète. Alors j'ai imaginé une planète totalement marécageuse, peuplée d'extraterrestres que j'ai appelés les Shuilong, qui sont des lézards humanoïdes et qui ont une organisation sociale très proche de ce qu'on peut trouver dans la forêt amazonienne. Alors cette planète attire la convoitise des multinationales pharmaceutiques, enfin même des multiplanétaires pharmaceutiques, puisqu'on est dans un cadre beaucoup plus vaste. Alors là, c'est une multinationale, une multiplanétaire ou multistellaire chinoise qui a pris pied sur cette planète et qui cherche à récolter tout le matériel génétique possible pour l'élaboration éventuellement de médicaments. Cette expédition chinoise a été confrontée dès le départ à une fièvre inexplicable et incurable qui leur a fait perdre plusieurs hommes. Donc l'exploration de la planète s'est poursuivie par l'intermédiaire de robots, jusqu'au jour où les Shuilong ont fait un pas vers les humains et leur ont apporté un de leurs petits, un de leurs enfants, et l'ont abandonné à la porte de la base humaine. Et donc cet enfant a été recueilli et a été élevé par les humains. Et quelques années plus tard, en fait, c'est lui qui semble peut-être pouvoir apporter une solution de contact avec son peuple, le peuple dont il est issu. Voilà. À l'extérieur, les chants reprennent. Ah oui, avant de commencer à lire, il faut peut-être que j'explique quand même que bon, il est embarqué sur un radeau automatique et il s'enfonce dans le marais, enfin c'est une forêt marécageuse, et il est guidé par un de ses congénères qui est venu à sa rencontre et qui le guide vers apparemment le village dont il est originaire. À l'extérieur, les chants reprennent. Dans la hutte, une voix solitaire les accompagne, soutenue par un raclement régulier. Habitués à la pénombre, mes yeux détaillent les agissements du chaman. Accroupi, ce dernier manie une écorce et une pierre ronde, un galet comme on en trouve plus au nord dans le lit des rivières qui alimentent le marais, pour écraser un morceau de racine dont l'enveloppe recèle une pulpe blanche et fibreuse. Par cette opération, il obtient une bouillie qu'il prélève avec ses doigts griffus et dont il garnit une feuille pliée en deux. Il affecte ensuite de porter ce sandwich primitif à sa bouche avant de me le tendre. Si je n'avais pas à rendre compte de mes moindres gestes, comme le stipule la feuille de route, je m'exécuterais immédiatement. Un prospecteur doit certes s'abstenir d'ingérer toute substance qui n'a pas été préalablement soumise à une analyse biomoléculaire stricte, mais cette consigne vise les prospecteurs humains. Or, je ne suis pas, physiologiquement parlant, un humain. La substance proposée fait sans doute partie de l'alimentation de base ou de la pharmacopée de mes congénères. Les probabilités que mon organisme réagisse mal à son ingestion sont faibles. Point de vue partagé par le médecin-chef, qui m'autorise à consommer l'échantillon de pulpe. Je remercie mon hôte en inclinant la tête. La racine broyée dégage un parfum piquant, plutôt agréable. La première impression est trompeuse. La texture filandreuse et le goût, âcre et d'une amertume extrême, me soulèvent presque le cœur. Je suis imprégné de la culture des hommes, et mes préférences alimentaires sont, elles, indiscutablement humaines. Aussi ai-je du mal à concevoir que l'ingestion d'une telle mixture puisse provoquer une autre réaction que de l'aversion. Après une première bouchée laborieusement mastiquée et déglutie, je fais mine de rendre le sandwich au chaman, mais celui-ci m'indique sans ambiguïté qu'il faut encore manger. La voix du lieutenant Chan m'encourage. Il me parle d'abnégation. Selon lui, les rituels de contact demandent souvent des sacrifices plus terribles. Je dois mater la révolte de mon estomac pour avaler la totalité de la substance. La préparation d'un second morceau de racine me met au désespoir, mais à mon grand soulagement, c'est mon hôte qui le consomme. Tout en mâchant, avec ses mâchoires cornées, il émet une vibration satisfaite. Est-ce là le son que je produis moi-même lorsque je m'alimente et qui fait dire au lieutenant que je ronronne à la façon d'un chat ? Nous restons agenouillés face à face, identiques à deux pratiquants d'une cérémonie de thé. Le chaman se tient immobile, les mains posées sur les cuisses, la queue roulée sur son ceinturon multicolore. J'ai naturellement adopté une position similaire. L'expression des yeux noirs qui me fixent demeure inaccessible.